Jean, un premier texte, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 1er, ce texte que nous connaissons bien, il nous rapporte la rencontre de Jésus avec Nicodème. Jean, chapitre 3, pardon, verset 1er. Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et je vous propose de compléter cette lecture par la lecture d'un verset dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou encore une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc ce sont deux passages que les chrétiens connaissent bien. Ils nous parlent tous deux de cette même réalité que un chrétien, c'est quelqu'un qui a expérimenté, en lequel s'est produit, un profond changement. Profond changement, un changement radical, d'origine divine, puisque Paul parle dans le deuxième texte d'une nouvelle création, c'est-à-dire qu'il y a un acte créateur qui est intervenu de la part de Dieu. C'est un changement profond qui change la vie, qui transforme profondément ce que nous sommes, au point même que le Christ, lors de son échange avec Nicodème, ce docteur de la loi, c'est-à-dire cet enseignant connu et dont l'autorité était reconnue dans le pays d'Israël comme un enseignant des Écritures, eh bien, il lui dira, il faut naître de nouveau, il faut une nouvelle naissance. Voilà, ce changement que Dieu opère dans le cœur de celui ou celle qui devient chrétien est tel qu'il s'apparente, qu'il consiste en réalité en une nouvelle naissance. C'est comme si nous naissions une deuxième fois. On en mesure la profondeur, on mesure la mesure de ce changement. Alors, quelques pensées que l'on peut retenir de ces deux textes, de cette réalité que nous soulignons, sont les suivantes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a conscience d'avoir vécu un profond changement dans ce qu'il est. Voilà, c'est Ce sont les applications directes qu'on peut faire de ces deux récits. On va les commenter au fur et à mesure que nous réfléchissons. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a vécu ce changement et qui en est conscient. Voilà. C'est important d'en avoir conscience, parce que finalement, il y a dans le monde religieux souvent une grande confusion. On va le voir, surtout dans le domaine religieux. Parfois, on ne sait plus trop où on en est, mais vous voyez qu'à la lumière de ces deux textes, il y a un moment où celui ou celle qui est chrétien, il est question non pas simplement d'un chrétien de nom ou de dénomination, mais d'une expérience chrétienne, je prends le terme chrétien dans le sens que la Bible lui donne, bien un chrétien est quelqu'un qui a cessé d'être ce qu'il était et qui est devenu finalement quelqu'un d'autre, une nouvelle création. L'évangile de Jean nous dit ceci: à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils ou fille de Dieu. Nous comprenons donc que le fait d'être chrétien ne peut pas être question de notre naissance, de notre éducation, du milieu dans lequel nous avons grandi. Non, non, c'est une expérience. On devient chrétien. Les chrétiens évangéliques ont souvent cette formule: on ne naît pas chrétien, mais on le devient. C'est une réalité. Il y a un moment dans la vie où l'homme, la femme, toute femme se retrouve au contact de l'évangile, de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Et bien, le fait d'entendre son appel et d'y répondre nous permet alors, si nous donnons accès au Christ, d'expérimenter ce changement et de devenir ce que nous n'étions pas autrefois. Et quand on le devient, eh bien, il y a un moment où on en est conscient. Voyez ? Alors, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens peuvent dire le moment précis, à l'heure près, voyez, à la seconde, où ils ont vécu ce changement. Parfois, oui. Parfois, oui. Il y a parfois, dans une réunion, ce moment où la parole de Dieu nous interpelle, on expérimente ce moment où le Saint-Esprit œuvre en nous, on ressent toute notre misère, on pleure sur ses péchés, on demande pardon à Dieu pour ses fautes, et instantanément, voilà, on reçoit son pardon par la foi dans la parole de l'Évangile, l'Évangile de la vérité, la parole de notre salut. Et il y a bien des chrétiens qui peuvent rendre témoignage que ça s'est passé comme ça. Ils peuvent vous citer la réunion, le jour précis, parfois ils ont pris une note de la date, ou alors elle est restée gravée au fond de leur mémoire, de leur cœur. Parfois, c'est ainsi. C'est ainsi. Parfois, ce n'est pas une prédication en tant que telle. Alors, ne minimisons jamais le rôle de l'enseignement de l'Écriture. On entend parfois des témoignages de gens authentiquement chrétiens qui vous disent, eh bien, je ne me suis pas converti suite à une longue prédication, etc. Certes, mais c'est quand même la parole de Dieu qui fait son œuvre. Vous voyez, car il est écrit que Dieu nous régénère, il nous engendre par sa parole. Et lorsque un chrétien, quand un homme ou une femme devient chrétien, et que ce n'est pas dans une réunion où la parole de Dieu a été prêchée, c'est la plupart du temps parce qu'il y a eu toutes sortes d'occasions où Dieu a permis que nous entendions. Or, sa parole est vivante, elle fait son chemin. C'est le bon dépôt, dira Paul à Timothée. Donc elle se dépose, voyez, jusqu'au jour où bien, nous permettons au Saint-Esprit de l'animer, de créer la vie par cette parole au fond de notre cœur. Je me souviens ainsi du témoignage de ce jeune homme, maintenant c'est un homme, qui dans une réunion de jeûne, où il n'y a pas eu de prédication, eh bien, était à genoux, là, à côté de l'un de ses amis. Et dans cette réunion, eh bien, alors que les chrétiens priaient, il s'est repenti de ses péchés, il en était profondément affligé, il est venu à la réunion sans savoir ce qui se produirait, il a pleuré sur ses fautes, et lorsque les chrétiens se sont levés à la fin de la réunion, il rend ce témoignage que c'est comme si un poids physique avait été retiré de ses épaules. Il savait qu'il était pardonné, libéré du poids de son péché. Et à partir de ce jour-là, il était chrétien. Voilà. Et puis parfois, c'est même un processus plus long. Vous voyez, parfois, certains chrétiens authentiques ne peuvent pas dire exactement quand ça s'est passé. Il n'y a pas eu d'expérience marquante à un point donné, à une date déterminée, mais ça a été un processus. Alors, ils peuvent vous fixer la période, mais ça s'est passé de manière graduelle. Et puis, voilà, quand la vie est-elle rentrée, il y a eu un moment. Mais on va répondre, Dieu le sait. Vous voyez, Dieu le sait. Une naissance, la naissance d'un bébé, une naissance physique, on peut toujours en fixer la date. D'ailleurs, c'est même obligatoire légalement. Mais la nouvelle naissance, vous voyez, elle est céleste, c'est quelque chose d'autre. Et parfois, ce n'est pas possible de dire c'était tel jour. Dieu le sait. Mais l'important, nous le disons, c'est de pouvoir affirmer, de pouvoir reconnaître que ce changement a eu lieu. Que ce changement a eu lieu. C'est important parce qu'on entend parfois des hommes ou des femmes dire, moi, vous savez, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours eu la foi. Malheureusement, ceux qui parlent ainsi montrent qu'il y a de grandes probabilités, pour ne pas dire une certitude, que cette foi n'est pas celle qui mène au salut. Il faut un changement. Il faut que vous naissiez de nouveau. D'ailleurs, la deuxième pensée, c'est celle-ci. Ce changement, non seulement il faut que l'on puisse se rendre compte qu'il a eu lieu, mais il est nécessaire pour aller au ciel. C'est ce que le Seigneur dira à Nicodème. Et Nicodème était, on le sait, un homme religieux, était un docteur de la loi, était un homme dont le savoir, dont le sérieux, dont l'honnêteté, je crois qu'on ne peut pas en douter, quand on voit son attitude devant le Christ, était présent et en faisait un homme que l'on respectait en Israël. Il enseignait l'Écriture en Israël et on sait quelle importance à cette période l'enseignement de l'Écriture avait au sein de ce peuple. On imagine, on imagine l'autorité dont cet homme était revêtu, dont il était investi. Et pourtant, et précisément parce qu'il avait tout ça, le Seigneur va lui dire dans leur échange, je te le dis, vérité, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, cette parole a pour but d'interpeller Nicodème. Elle doit l'amener à réfléchir, elle doit l'amener à reconsidérer ce qu'il a cru jusque-là. On voit cet homme sincère, honnête, qui vient vers le Christ de nuit, il lui pose des questions. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Je reconnais que personne ne peut faire ces miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. La conscience de Nicodème est travaillée. Il est conscient que le Seigneur a été envoyé de Dieu. Et vous voyez, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Et le simple fait de l'admettre pour Nicodème montre toute son honnêteté intellectuelle, puisque autour de lui, cet homme était environné par des religieux qui rejetaient Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas entendre parler de lui. D'ailleurs, quelque temps plus tard, ils excluront de la synagogue tous ceux qui le reconnaissent comme le Christ. Mais Nicodème, lui, il ne s'arrête pas à ça. Il a vu et entendu des choses qui, au fond de sa conscience, le portent à croire de tout son être que Jésus vient de Dieu. Alors il va vers lui de nuit, parce que c'est vrai qu'il y a une crainte du regard des hommes. Quel d'entre nous peut dire que nous n'avons pas connu, que nous ne connaissons pas, à certaines occasions, la crainte des hommes. Et il commence à lui parler. Voilà, nous savons que personne ne peut faire ces miracles s'il ne vient de Dieu. Et Jésus ne répond pas à sa question, mais il lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, il faut que vous naissiez de nouveau. La parole de Jésus n'a pas pour but de blesser Nicodème, mais d'enlever ses illusions, de lui montrer, cette parole est appelée à faire son chemin, non seulement à l'interpeller, à l'amener à réfléchir, naître de nouveau, mais encore à prendre conscience que tout ce qu'il pense avoir, tout ce qu'il possède sur le plan religieux, tout ce qu'il possède sur le plan personnel, et qu'il a cru suffisant, de nature, à le rapprocher de Dieu, n'a aucune valeur pour entrer au ciel. Vous voyez, Nicodème était un homme religieux, moral, sérieux, et le Seigneur lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le Seigneur lui explique pourquoi. Il lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Dire tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient du cœur de l'homme, tout ce qui vient des résolutions de l'homme, bien reste humain. Et pour entrer au ciel, il faut vivre une œuvre divine. Il faut qu'une œuvre divine se passe là, dans ton cœur, Nicodème. Et puis, ce changement, non seulement il faut être conscient qu'il a eu lieu à un moment donné de notre vie, non seulement il est absolument indispensable pour rentrer au ciel, mais ces textes que nous avons lus nous amènent à prendre conscience qu'il doit aussi porter du fruit, c'est-à-dire qu'il est reconnaissable. Celui qui l'expérimente, celui qui le connaît, celui qui le vit, qui le reçoit, ne va plus jamais vivre de la même manière. Il y a des marques à cette nouvelle naissance, à cette nouvelle création. Je propose qu'on lise simplement un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, et à partir du verset 5. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. À partir du verset 5, alors Paul écrit à des chrétiens ici, des hommes et des femmes, qui, il y a tout lieu de le penser, pour la quasi-totalité d'entre eux, en tout cas dans l'église de Colosse, qui ont vécu ce changement, et voilà ce qu'il leur dit. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Alors ce texte est intéressant parce qu'il montre les fruits de la nouvelle naissance. Et quels sont-ils ? Eh bien, les fruits de la nouvelle naissance consistent pour tout chrétien dans un éloignement du mal, dans le désir conscient, volontaire, délibéré, voyez, de reconnaître le mal qui se trouve encore en nous, d'en obtenir le pardon en le confessant, en l'abandonnant, et de s'en détourner pour pratiquer le bien. Alors, ça dissipe quelques fausses conception de la nouvelle naissance, ce texte. Parce que, parfois, on pourrait avoir l'impression, si on lit la Bible superficiellement, que quelqu'un qui est né de nouveau, voyez, n'a plus jamais envie de faire le mal, une nouvelle naissance, une nouvelle création, donc, voilà, on devient parfait, quoi. Et c'est important de prendre conscience que ce n'était pas du tout ce que la Bible enseigne, parce que sinon, il y aurait de quoi être troublé. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui vivent ça. Ils se disent, mais voilà, au bout de quelques mois, quelques années de conversion, est-ce que c'est normal que je sois encore tenté de telle manière ? Est-ce que c'est normal que j'ai encore telle ou telle réaction ? Je me souviens de la prière d'un homme qui m'a beaucoup marqué par son témoignage, par sa vie. Je me souviens, c'était dans une convention pastorale. Parce qu'il y avait derrière cette prière, il disait « Seigneur, on est parfois si humilié de voir encore telle chose, telle réaction en nous au bout de 30 ans de conversion. » Mais c'est vrai. C'est vrai. Seulement la grande différence, C'est que le chrétien, contrairement à celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas vécu ce changement, bien, il ne vit pas dans cette soumission au mal, il ne vit pas dans cette défaite, il ne l'accepte pas, il ne désire pas le mal, il ne conduit pas sa vie selon ce principe, même s'il lui arrive, voyez, de défaillir, d'éprouver encore des choses, de réagir, même d'agir de manière coupable. Ben, il en prend conscience et il le confesse à Dieu. Confesse à Dieu quelque chose qui le blesse lui-même, qui a offensé Dieu, mais qui le blesse aussi. C'est ce que la Bible appelait « marcher dans la lumière ». Il est comme Dieu lui-même dans la lumière. C'est ce que Jésus dit à Nicodème quand il lui dit « Celui qui fait le mal est la lumière ». Lui, celui qui ne veut pas de cette vie de Dieu, eh bien il s'enfonce dans le mal, il y persévère, il fait ce qu'il veut. Parfois, même cette personne-là, sa conscience va le reprendre, mais au fond de lui-même, il aime le mal. Tandis que le chrétien, lui, il ne l'aime pas, il ne l'aime plus. C'est la grande différence. Et il va, voyez, se dépouiller, faire mourir. Il y a des moments où le chrétien se retrouve là à genoux et dit « Seigneur, sonde-moi. » Hein, c'est ce que sont les paroles du psaume. « Connais mon cœur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Et là, je reconnais que derrière tel projet que j'ai formé, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Derrière tel sentiment que j'ai eu, il y a quelque chose qui te déshonore. Seigneur, pardonne-moi. Derrière tel projet, il n'y avait pas forcément un mauvais désir, mais je reconnais qu'il n'y a pas un bon état d'esprit. Seigneur, purifie-moi. Derrière telle action que j'ai accomplie, il y a eu une mauvaise réaction. Je ne me cherche pas de circonstances atténuantes. Seigneur, lave-moi et permets-moi, même si j'en ai pas envie, même si je sens encore en moi quelque chose qui me pousse là vers une attitude que tu désapprouves. Bien, voilà, c'est pas une question de ce que je sens ou de ce que je sens pas, mais je veux faire ce qui t'est agréable. Et ça, c'est la preuve qu'il y a eu la nouvelle naissance. C'est la marque d'une nouvelle création, de cette nouvelle création dont nous parlons. Je pense encore à des témoignages, c'est surtout des témoignages de nouveaux convertis qu'on entend, mais parce que les nouveaux convertis, quelqu'un qui vient de devenir chrétien, il ne comprend pas forcément toutes les choses. Alors, je pense à ce chrétien qui avait été entraîné à se disputer violemment avec un membre de famille quelques heures après sa conversion. Et évidemment, il était tout troublé. Il s'est dit, mais est-ce que c'est possible que tu aies vraiment vécu ce que tu as pensé? Et puis, bien sûr, le diable, qu'il ne faut pas voir partout, mais qui existe, a en rajouté. Et ce jeune chrétien était troublé de ce qu'il s'était laissé emporter. Et voilà, il était humilié. Mais il y a quand même l'œuvre de l'Esprit de Dieu, là aussi c'est une réalité. Et après s'être endormi, il a troublé, malheureux, il s'est relevé le lendemain, il a fait un petit peu le point, et il s'est dit, mais oui. Et malgré cette réaction, je sais en qui j'ai cru. Je sais que je me suis authentiquement tourné vers Dieu pour lui demander pardon pour ce que j'étais. Il y a en moi ce désir de lui plaire. Aussi, Seigneur, lave-moi et permets-moi de relever la tête. Et malgré cette dispute, malgré cette réaction de ma part, Seigneur, il ne faut pas que ça m'arrête. Et il a bien fait. Vous voyez, il est écrit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais encore pour ceux du monde entier. Et il est écrit, ces choses ont été écrites, non pas pour que vous preniez le mal à la légère, non, ces choses ont été écrites pour que, voyez, vous ne péchiez point. Et c'est cette position, c'est cette réalité de la nouvelle naissance aussi qui nous donne de triompher du mal. Enfin, donc nous avons vu que ce changement, tout chrétien doit en être conscient. Nous avons vu qu'il est tout à fait nécessaire pour entrer au ciel, comme le Seigneur le dit à Nicodème. Nous avons lu qu'il porte des fruits, il doit y avoir une preuve que quelque chose s'est produit, que quelque chose s'est passé. Et le plus important, si quelqu'un ne l'avait pas vécu, comment le vivre ? Comment le vivre ? Alors c'est ce que Nicodème va demander au Seigneur. Comment cela peut-il se faire ? Je ne suis pas certain qu'au stade où il en était, Nicodème ait été conscient de la nécessité de ce changement pour lui-même. Je crois qu'il était tellement pris avec sa religion, avec son savoir, avec le statut qu'on lui reconnaissait, que toutes ces choses, c'était comme des parasites. Vous voyez, ça l'empêchait d'entendre et de recevoir la pleine portée de ce que le Seigneur lui disait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, vous allez dire, mais Dieu n'est-il pas souverain pour ouvrir le cœur d'un homme ? N'aurait-il pas pu convaincre Nicodème sur le champ ? Si, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et voyez, lorsque le Seigneur parle à Nicodème, qui lui dit, voilà, il faut que vous naissiez de nouveau, ça va faire son chemin. Ça va faire son chemin. Ça fait son chemin parce que le cœur de l'homme est tordu, parce que nous sommes compliqués, c'est vrai. Ça fait son chemin aussi parce que parfois c'est comme ça. Et il faudra, parce que Nicodème est quand même un homme honnête, il faudra tout un cheminement pour que ses yeux s'ouvrent. D'abord, quelques temps plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps, il verra Nicodème que les hommes qu'il fréquente dans ses cercles religieux, ses docteurs, ses pharisiens, forment le projet de condamner Jésus. Et là, alors que la première fois il est venu de nuit, il prendra sa défense. Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on sache ce qu'il a fait ? Vous voyez, c'était courageux. Et à ce moment-là, est-il convaincu que Jésus est le Christ ? Je crois qu'il commence à le penser. Mais vous voyez, il y a quelque chose en lui, là, qui est né, quelque chose qu'il n'accepte plus. Parce qu'il est en quête de ce qui est vrai, il est en quête de ce qui est droit. Puis, on le sait, lorsque Joseph d'Arimathée proposera, après qu'on ait dépendu le corps du Seigneur de la croix, quand Joseph d'Arimathée proposera de donner, de mettre à disposition son sépulcre, pour y déposer le corps du Seigneur, Nicodème devant tous prendra position et affichera sa foi en Jésus en tant que le Christ. Mais dans quelle mesure a-t-il compris ? Quand va-t-il comprendre ce que Jésus lui dit ? Si ça, on ne le sait pas. Voyez, comment cela peut-il se faire ? C'est une question un peu générale. Ce que tu me dis, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et le Seigneur va lui dire, mais voilà, ça t'échappe. Tu vois les effets du vent, tu le vois à l'œuvre, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme né de l'esprit, né de nouveau. Autrement dit, comment ça peut se faire ? Ça reste un mystère. C'est l'œuvre de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut naître de nouveau, puisque c'est si important, puisque c'est une question de ciel ou d'enfer, de vie ou de mort ? Je veux savoir. Il y a l'œuvre de Dieu que nous ne comprenons pas, en revanche, il y a ce que nous pouvons et devons savoir. Ce que l'Écriture nous révèle, c'est que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, par amour pour nous, pour que quiconque ne périsse pas, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Jésus est mort en portant nos fautes. Et non seulement portant nos fautes, mais la mort de Jésus-Christ, nous révèle l'Écriture, est là pour que ce que nous avons été jusqu'à présent, si nous avons vécu sans Dieu, eh bien, descende avec lui dans le tombeau. Ça nous dépasse, il faut le croire. Jésus est devenu notre représentant, il est venu pour cela. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Il est ressuscité. Troisième jour, lorsque les femmes sont venues pour l'embaumer, quand elles sont venues avec les aromates, le tombeau était vide. Le tombeau était vide, il est apparu à une d'entre elles, il est apparu à ses disciples. Le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Et sa résurrection est aussi le gage que son sacrifice a été agréé et que notre vie, dans la mesure où nous lui la confions, eh bien, il la ressuscite en lui. et avec lui. C'est la base, c'est le fondement de la nouvelle naissance. Nous, notre part, c'est de reconnaître que sans cette œuvre-là, nous n'avons aucun espoir de nous sauver. Ni par notre pratique religieuse, ni par notre bonne moralité, ni par nos efforts pour pratiquer le bien, alors qu'en nous reste tant de choses qui offensent Dieu, ni par notre argent, ni par nos souffrances méritoires, ni par nos œuvres caritatives ou sociales ou tout ce que vous voulez. Toutes ces choses n'ont pas le pouvoir de nous sauver. Nous avons besoin d'être au bénéfice de cette œuvre-là, parfaitement accomplie, extérieure à nous. Il faut aussi avoir l'humilité, pour en arriver là, de reconnaître la réalité du péché, la réalité du mal. Seigneur, non pas simplement je suis un pécheur parce que tu me le dis, mais Seigneur, je reconnais que oui, mes actions, mes choix, mes œuvres, mes pensées amènent sur moi justement ta rétribution, ton châtiment. Et pas seulement ça, mais il y a en moi un principe qui me pousse vers le mal. Il faut le reconnaître à Dieu. Il faut être honnête pour le faire. Et ça nous humilie, ça nous blesse. Mais ça, c'est la condition absolument indispensable. Puis enfin, avez-vous remarqué ce dernier point que Jésus soulève avec Nicodème? Il va le ramener, et Nicodème connaît bien ce passage, il connaît bien les Écritures, il les enseigne, c'est un théologien. Le Seigneur va lui dire, de la même manière que Moïse a élevé dans le désert le serpent d'airain, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent d'airain, c'est ce serpent formé à partir de bronze fondu que Dieu avait ordonné à Moïse d'élever au plein milieu du camp d'Israël, alors que, suite à leur murmure, les Israélites étaient victimes d'une attaque de serpents. C'est curieux, ça. Ils étaient mordus par des serpents dont le venin était assez puissant pour donner la mort. On imagine le désarroi dans le camp d'Israël. Et Moïse a crié à Dieu en faveur des enfants d'Israël en disant « Seigneur, aie pitié de ce peuple, permet que ces morts cessent. » Et Dieu avait répondu en disant « Voilà, tu vas faire un serpent, serpent d'airain, tu vas l'élever, et quiconque lèvera le regard vers ce serpent ne mourra pas, il conservera la vie. » C'était une folie sur le plan humain, il n'y avait aucun traitement médical. Comment un simple regard sur un objet de bronze pouvait-il rendre la santé à des gens qui avaient été mordus par deux serpents? C'était le remède divin. Et ceux qui regardaient le serpent conservaient la vie. C'est écrit, c'est la Bible qui en rend témoignage. Dieu ne ment pas, nous recevons ce témoignage comme vrai. Et vous voyez, quand on a fait tout ce qu'on a dit, quand on a reconnu notre péché, quand on a reconnu notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, quand on a reçu le témoignage de l'Évangile qui nous montre que Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, ben il faut le recevoir. Il faut le croire. Il faut que le regard de notre foi s'élève vers ce fait pour nous permettre de recevoir le pardon et cette nouvelle naissance, naître de l'Esprit. Le reste, cela ne relève plus de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Notre part, c'est de croire dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Ensuite, l'œuvre de la nouvelle naissance, la nouvelle création, c'est son œuvre à lui. Je propose que nous nous recueillions et qu'ensemble, nous nous tournions vers Dieu dans la prière et l'action de grâce. Merci Seigneur.